Nous entendons dès à présent notre triomphant avenir marcher à grands pas dans l'histoire. Oui, cela va commencer. Écoute, l'histoire.
Front populaire, une ambition culturelle.
Debout, jeunesse, à l'œuvre. Nous voulons créer un monde neuf. Demain, la vie commence. Demain, il y aura du bonheur pour tous les hommes.
Nous sommes les hommes de demain.
Demain, le travail volontaire. Demain, les loisirs. Demain, la liberté. Demain, l'amour.
Les classes populaires avaient peu tiré parti de la relance des années 20 et beaucoup souffert de la dépression des années 30. Les ligues nationalistes d'extrême droite gagnaient du terrain à mesure qu'en Europe grossissaient les orages. Au-delà du Rhin, Hitler fourbissait ses armes. S'il avait pu l'emporter aux élections, c'est que le parti communiste allemand avait joué la carte de l'isolement, rendant impossible le rapprochement avec la social-démocratie. Mais voici que Staline, tyran tardivement, la leçon de cette catastrophe, autorise les communistes français à se joindre aux socialistes et aux radicaux dans le cadre d'une politique de main tendue, puis de front populaire. L'Alliance des gauches l'emporte au second tour des législatives le 3 mai 1936. Avant même que le gouvernement du socialiste Léon Blum n'ait pu être investi, le 4 juin, un gigantesque mouvement de grève se lève avec fait inédit, une occupation massive des lieux de travail. Le travail ne reprend qu'après la signature d'accords signés à Matignon. Le gouvernement a pris en charge une grande négociation sociale de l'initiative à la conclusion. Voilà déjà beaucoup de nouveaux. Mais l'extension de la responsabilité publique va au-delà puisqu'elle concerne aussi ce que nous appelons aujourd'hui la culture.
La marche de l'histoire. France Inter. Jean Lebrun.
Avec Pascal Horry, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Nouvelle édition CNRS. Plus de 1000 pages, 17 euros seulement. La belle illusion, culture et politique sous le signe du Front Populaire. Et puis votre participation au hors-série très bien fait et illustré du Monde qui sort sous le titre de 1936, 8 euros. Alors là, je parle de chiffres. Parlons de mots, de substantifs et d'adjectifs. Le mot culture, le mot culturel, on ne l'utilisait pas comme aujourd'hui, à l'époque du Front Populaire.
Mais si, Jean Lebrun, mais si, quand je me suis lancé il y a maintenant 45 ans.
45 ans.
Dans cette thèse, que je n'ai pas mis 45 ans à terminer, mais 20 ans. Bon, je dis pas que j'ai écrit 20 livres pendant ce temps-là, mais enfin, j'ai pas fait que ça. J'utilisais à dessein le terme de culture, de politique culturelle, mais je m'exposais à quelques remarques plus ou moins pincées de certains collègues disant que c'était quand même très anachronique. Alors, entre parenthèses, l'anachronisme n'est pas forcément un problème en histoire. On passe notre temps à utiliser des artefacts. Quand on dit religion du Moyen-Âge, on utilise deux termes qui n'ont pas de sens à cette époque-là. Bref. Mais j'étais très content, parce que ça c'est l'histoire, c'est l'archive qui m'a apporté ça sur un plateau, de découvrir que culture, vie culturelle, ministère de la culture, politique culturelle, révolution culturelle, c'est un vocabulaire qui est utilisé à l'époque et qui est d'ailleurs émergent. Il y a un texte extraordinaire d'un jeune haut fonctionnaire qui fera une très belle carrière, François Bloch-Lainé.
C'est sa thèse. Comme la belle illusion est votre thèse.
Voilà, sa thèse de droit, mais avec une préoccupation sociale. C'était un scout catholique très engagé, qui utilise en particulier en italique le terme culturel, qui s'en excuse, mais qui dit, voilà, c'est un terme émergent. Alors c'est merveilleux, et ça c'est un texte de début 1936.
Mai 1936, au moment de la constitution du gouvernement, le journal de Gaston Bergerie, qui s'appelle La Flèche, titre pour un ministère de la culture. Et il y a une sorte de ministère, allez, je fais de l'anachronisme, pré-Jacques Lang, de l'éducation, de la culture et des forces de la joie, qui, sous l'égide d'un radical intégral, Jean Zay, se met en place.
Radical intégral, mais d'abord très jeune ministre, le plus jeune ministre de la Troisième République, de l'aile gauche du Parti Radical, avec des gens comme Pierre Cotte, dont on parlera peut-être parce que Pierre Cotte s'est occupé aussi de culture, qui est ministre de l'air, donc des gens qui sont des radicaux très partisans de l'alliance à gauche, et d'autre part un grand ministère, tout simplement parce qu'à l'époque il y a un ministère de l'éducation nationale, c'est une formule nouvelle, elle date de la précédente victoire de la gauche, de 32, et autour d'Anatole de Monzy, qui est une sorte de pré-réformateur qui annonce Jean Zay. Ce grand ministère englobe ce qu'on appellerait aujourd'hui l'éducation nationale, la recherche scientifique, ça c'est capital puisqu'on aura Jean Perrin aux manettes dans peu de temps, avec à terme la création du CNRS par exemple. Ça comprend aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui la jeunesse et les sports, et bien sûr les beaux-arts, comme on dit encore, il y a encore une direction générale des beaux-arts, c'est la fin de la direction générale des beaux-arts, mais en train d'exploser en quelque sorte.
C'est devenu un concept trop étriqué.
Oui, et d'une certaine façon, Jean Zay en est conscient, puisque en prison, avant d'être massacré par les miliciens en 1944, il a le temps de présider à une réflexion qui ne donnera rien, sauf une éphémère tentative à l'époque de Jack Lang, au moment du deuxième septennat de François Mitterrand, de rapprochement entre éducation nationale, jeunesse et sport, et tout ce que je viens de dire, et culture, sous la forme d'un ministère de la vie culturelle, tout à fait passionnant, mais qui ne verra jamais vraiment le jour.
Et puis, il y a une convergence, vous insistez là-dessus, avec les artistes et les intellectuels, ceux du haut du pavé qui tiennent meeting dans le comité de vigilance antifasciste, comme ceux jeunes, nécessiteux, laminés par la crise, qui appartiennent à la Confédération des travailleurs intellectuels et qui cherchent des débouchés.
Oui, parce que la crise économique a amené un certain nombre d'artistes. C'est très net dans le domaine, par exemple, de l'architecture, des arts plastiques, qui se retrouvent absolument au chômage. Le chômage intellectuel était une thématique, d'ailleurs, d'avant même le Front Populaire, il y a même des timbres-postes pour en venir en aide aux chômeurs intellectuels. L'exposition de 37, à laquelle va présider le Front Populaire, est une occasion de donner du travail, tout simplement, concrètement, à quantité d'artistes. On sent bien qu'il y a là un enjeu économique, le Parti communiste s'en servira, d'ailleurs. Et par ailleurs, il y a évidemment la montée, là c'est plus profondément politique, la montée du fascisme, et en particulier du fascisme hitlérien.
Un jeune normalien que vous citez et dont vous dites « j'ai pas trouvé ces archives écrites » avait à l'époque la charge d'animer le mouvement jeune, J-E-U-N-E-S avec des majuscules. Il y a des traces au disque, celle-ci, dans la collection de Martin Penney. Il s'appelle Jean de Chez, il finira plus tard éditorialiste un peu ronchon de Paris Inter. Mais à l'époque, écoutez-le, il est plein d'un allant inouï.
Oui, jeunesse. Le vieux monde s'écroule dans les douleurs et dans les larmes, dans le sang, dans la faim. Le vieux monde croule sous sa misère. Le vieux monde croule sous sa bêtise. Le vieux monde crève de sa belle mort, de sa hideuse mort. Crèverons-nous avec lui?
Non!
Vivrons-nous après lui?
Oui!
Alors, mes camarades, il faut le remplacer. Qui le remplacera?
Nous, jeunes, nous voulons vivre et non crever.
Nous avons 25 ans, nous aimons la vie comme l'amour, et ils n'ont su nous apprendre qu'à crever, qu'à haïr. Ils nous ont appris les mille et une manières d'haïr et de crever. Crever d'inanition.
Abat le chômage.
Crever dans les prisons.
Abat les dictateurs.
Crever dans les camps de concentration.
Abat le fascisme.
Il ne doit plus y avoir un seul homme misérable, car le monde est riche comme le paradis perdu. Le blé de trois moissons pourrit dans les silos. Le vin de l'an dernier coule dans la rivière. On jette les poissons à l'eau, on fout le café en l'air. On pilonne les autos, on assèche les rivières. On brûle les cochons trop gros et on enterre les vaches laitières.
Abondance partout.
Le mouvement du Front Populaire, c'est un mouvement choral, dites-vous, Pascal Horry, c'est un mouvement de cœur parlé aussi bien que de cœur chanté.
Oui, en écoutant cet enregistrement, on peut être partagé entre le constat d'une certaine obsolescence de toute une rhétorique et en même temps le cœur parlé, par exemple, qu'on entend environnant Jean de Chez, mais il en fait partie, c'est le soliste des cœurs parlés. C'est un genre d'art, une forme d'expression qui triomphe à ce moment-là. D'ailleurs, même la jeunesse ouvrière chrétienne va tenter ça, voire les fascistes. Mais en tous les cas, la gauche est porteuse de ce modèle-là, c'est-à-dire la gauche socialiste, faut le préciser, qui passe ensuite le virus en quelque sorte aux communistes. Mais le groupe Octobre de Jacques Prévert, qui est un peu mythifié aujourd'hui, le groupe Octobre a pratiqué aussi le cœur parlé. On en a des traces dans un film de Jean Renoir, supervisé par Jean Renoir en 36, qui est La vie est à nous.
La vie est à nous, qui va bénéficier d'une restauration, parce qu'on a retrouvé une copie en ex-Union soviétique. Cœur parlé, cœur chanté. S'il faut évoquer les cœurs chantés, il faut mettre en avant, bien sûr, le mouvement des auberges de jeunesse, qui est un mouvement double, à la fois catholique, laïque, et socialiste.
C'est typiquement français, c'est-à-dire que la France est le seul pays au monde qui, à l'époque, a plusieurs associations d'auberges de la jeunesse. C'est vraiment les deux France, puisque le fondateur Marc Saignier de la plus ancienne, la Ligue française pour les auberges de la jeunesse, est marqué, de façon d'ailleurs presque excessive, par son catholicisme, parce qu'il n'est pas que ça. Et ça suffit pour que les laïcs se crispent et créent leur propre association, qui va d'ailleurs devenir hégémonique.
Mais foin de crispation, Emmanuel Berle, dans Marianne, dit « On ne fait pas de grandiloquence discussions politiques dans les auberges de la jeunesse qui vont être peuplées notamment par les visiteurs des congés payés en août 1936. On chante des chansons.
À l'auberge de de la jeunesse, célébrons à l'unisson la plus belle de nos hôtesses, l'amitié qui unit filles et garçons. On acclame plein d'allégresse les beautés de cette union. Pour les jeunes, la seule adresse, c'est l'auberge de la jeunesse.
C'est à la jeunesse que nous consacrons cette œuvre, la jeunesse de France, ayant compris et conquis le sens de la dignité et le sens de la joie.
Il avait un beau costume, un sac plus perfectionné qu'il n'est de coutume, un matériel renommé, un chapeau à plumes, mais il était entraîné qu'à marcher sur le bitume. Il est perdu dans le bois, le campeur en sucre là, il est perdu dans le bois, le campeur en chocolat. Mais quand vint l'aube tranquille, les animaux l'ont conduit tout près de la ville. Souviens-toi, lui ont-ils dit que rien n'est facile et que camper n'est permis à peureux ni imbécile. Il est perdu dans le bois, le campeur en sucre là. Il est perdu dans le bois, le campeur en chocolat.
Le camping, disait Drieux-La Rochelle, on peut citer quelques auteurs de droite, de temps en temps Pascal Horry, c'est la révolution des temps modernes. Premier mouvement, le chansonnier lillois Simons, ensuite c'était Léo Lagrange, le sous-secrétaire d'État au sport, le sport est une culture, et puis le campeur en chocolat sur les paroles de Paul Vaillant-Couturier avec une musique de Georges Auric.
Oui, Paul Vaillant-Couturier, qui est une des grandes personnalités du Parti communiste à l'époque, et qui va jouer un rôle très actif dans cette politique de la main tendue, parce que au fond, il est tout à fait respectueux des consignes, mais comme désormais la consigne, c'est de tendre la main sur la droite du Parti communiste, il le fait bien volontiers, et il est très harmonique de cet esprit Front populaire. Il publie effectivement des chansons de camp, en quelque sorte, qui vont avoir un très grand succès dans les auberges, dont d'ailleurs la chanson de Simons, que vous citez à juste titre, rappelle bien que, et on ne se rend pas compte à quel point c'était révolutionnaire à l'époque, les garçons et les filles sont ensemble. Il y a d'ailleurs même une tendance au sein du monde catholique à créer une contre-association, encore une troisième, qui échouera, qui n'allait pas jusqu'à la mixité, parce que c'était vraiment inimaginable.
Parmi les musiciens qui ont accompagné les chants du campeur de Paul Vaillant-Couturier, il y a d'ailleurs une femme, Yvonne Desportes, et puis André Jolivet, je citais le nom de Georges Auric, il faudrait parler de Sauf Plane. Et c'était des chansons relativement savantes dans la composition, mais qui pouvaient être reprises par les chœurs militants qui fleurissaient partout.
Oui, des chœurs d'amateurs qui parfois deviendront professionnels après la Seconde Guerre mondiale. On comprend rien à l'histoire de la chanson Rive Gauche sans cette origine Front populaire. Et puis c'est le moment où on publie des livrets de chansons sur le modèle un peu scout, mais avec une orientation plus nettement à gauche.
Alors il y a des maisons d'édition sonores et des maisons d'édition papier, Le Chant du Monde, les éditions sociales internationales.
Qui sont en fait très proche, pour ne pas dire complètement intégré à la stratégie du Parti communiste, mais qui, à l'époque, ouvre complètement les bras. C'est quand même extraordinaire de voir que l'une des chorales du Parti communiste, en réalité, rappelle que, et fait bilan en 1937, les deux premières années, elle a travaillé sur des chants partisans, la troisième année, Beethoven, la quatrième année, Handel. Ça, je viens de résumer le Front populaire.
Et puis, il faut quand même parler des grands anciens. Et là, on va voir planer, Pascal Horry, l'ombre de Romain Rolland, porté depuis sa colline sacrée de Vézelay. Romain Rolland avait donné au début du siècle un 14 juillet. Et le 14 juillet 1936, donc le mois qui suit la victoire du Front populaire, très rapidement, une quarantaine de musiciens, dont Auric, Millot, Roussel, Honegger, participent à une mise en musique de ce 14 juillet. Et ici, on a la partie qui a été composée par Charles Koechlin. C'est très important, Charles Koechlin aussi.
Oui, c'est un compositeur un peu oublié, on le redécouvre en ce moment, mais ça reste très pointu. C'est quelqu'un qui était très préoccupé de popularisation de la musique, et en particulier qui a beaucoup composé pour ce qu'on appelait la musique d'harmonie, la musique des fanfares et des harmonies, des orphéons, en particulier du Nord, Pas-de-Calais.
Que le Front populaire essaye de réveiller d'une certaine torpeur,
cette occasion,
avec
oui.
Un succès relatif. Liberté, 14 juillet, Romain Rolland, Charles Koechlin.
Liberté dans ce beau jour, liberté remplit notre âme.
Liberté dans ce beau jour, liberté remplit notre âme.
Liberté dans ce beau jour, liberté remplit notre âme.
Nancy tout entier fête aujourd'hui l'inauguration d'un stade populaire qui portera le nom de Romain Rolland. Me voici avec M. Bigot, maire de Clamecy, et avec Jacques Duclos, vice-président de la Chambre et secrétaire du Parti communiste. M. Bigot prononce le discours d'inauguration. Jacques Duclos, au nom du Parti communiste, salue Romain Rolland, grand écrivain au service du peuple, pionnier avec Henri Barbusse du mouvement international pour la paix et la liberté.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La journée se termine sur de populaires joutes nautiques.
Avec Pascal Horry, qui participe au hors-série du Monde intitulé 1936, où il donne un article sur notre thème, l'ambition culturelle du Front Populaire, qui était le sujet de sa thèse, fort heureusement rééditée en format de poche par les éditions du CNRS, avec le même titre qu'il y a 25 ans, La belle illusion. Il fallait qu'on entende quelques accents d'au-devant de la vie, parce que ça, c'est la chanson la plus populaire à l'époque du Front Populaire.
Oui, pas simplement d'ailleurs, effectivement, dans les auberges de la jeunesse, musique au départ de Chostakovitch, une musique soviétique venue par le cinéma soviétique qui commence à être de façon homéopathique autorisée dans certaines salles en France et qui serait reprise effectivement par tout le mouvement d'abord des chorales populaires proches du Parti communiste et ensuite des auberges de la jeunesse les plus étrangères d'ailleurs aux stratégies du Parti communiste, parfois très hostiles, très pacifistes, etc. Mais c'est tellement significatif de cette époque-là avec un texte qui peut paraître aujourd'hui là aussi un peu obsolète, mais qui est vraiment dans cette veine un peu naturiste et surtout positive. C'est-à-dire que garçons et filles vont vers un avenir qui est évidemment marqué par la paix. L'une des grandes préoccupations de l'époque, c'est pain, paix, liberté. C'est quand même la lutte contre le fascisme, liberté. Les réformes sociales, pain, mais aussi la paix. Or, évidemment, l'un des drames du Front Populaire, c'est que c'est la guerre d'Espagne, c'est la guerre sino-japonaise, etc.
Alors, tout au long de votre livre, court cette hypothèse, que serait devenue la politique culturelle du Front Populaire, si elle avait eu le temps de se développer, elle avait choisi le rythme de l'expérimentation.
Oui, c'est très net déjà sur le plan des réformes scolaires dont on ne peut pas parler en détail maintenant, mais celles de Jean Zay sont remarquablement, j'allais dire, protestantes dans leur esprit. D'ailleurs, Jean Zay était de culture protestante, faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on commence par l'expérimentation, on fait le bilan et on monte peu à peu vers la généralisation, ce qui me paraît assez bien vu et qui est pas du tout dans le sens de ce vieux pays d'État, ce vieux pays catholique qu'est la France. Fin de la parenthèse. Donc, une expérimentation, et c'est vrai aussi pour les auberges de la jeunesse, c'est vrai pour la politique de Léo Lagrange, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas généralement beaucoup d'argent, mais ils ont les associations, un mouvement associatif extraordinaire. Il y a des dizaines d'associations culturelles qui se créent à travers le territoire entre 35 et 37.
Mais cependant, vous montrez aussi qu'il y a une politique de commande venue d'en haut, en matière musicale, ce qui est nouveau, en matière d'art plastique, avec le souci d'accélérer enfin la création d'un musée d'art contemporain, d'un musée des arts vivants.
Oui, il y a un certain nombre d'initiatives muséales intéressantes, principalement le musée des arts et traditions populaires, qui est d'ailleurs d'abord une équipe en interface avec les auberges de la jeunesse. Il y a même un projet extraordinaire visant à créer ce qu'on appellera plus tard des écomusées, dont les conservateurs, au sens technique du terme, seraient des pères aubergistes. Vous imaginez la révolution dans le monde des musées. Personne jamais n'osera ça. Là aussi, la frilosité française l'emportera.
La politique d'achat, elle est conduite par une autre belle équipe que celle du gouvernement. Un peu au-dessous, Georges Huysmans, Jean Cassou, et ce sont des achats, là je parle des arts plastiques, un peu inédits là aussi.
On va même jusqu'à acheter un Kandinsky, mais c'est quand même pas la tendance principale. La tendance principale, c'est de réintégrer un certain nombre d'artistes qui étaient considérés comme relativement modernistes dans la commande publique. Ça, c'est une première chose. C'est d'autre part de donner, puisqu'on parle d'expérimentation, carte blanche à l'occasion de l'exposition de 37, qui est principalement, évidemment, programmée avant la victoire de 36, mais qui est gauchie en quelque sorte par le Front Populaire, à des gens comme Le Corbusier, qui est loin d'être un homme de gauche, mais qui est bien content à ce moment-là de recevoir une aide publique pour son pavillon des temps nouveaux, Robert et Sonia Delaunay, dans le pavillon de l'air, etc. Donc, il y a des signes qui sont envoyés dans le sens du modernisme, mais la principale préoccupation, ce n'est quand même pas d'aider forcément l'avant-garde, quoi qu'entre parenthèses, dans le 14 juillet de Romain Roland. À qui doit-on le rideau de scène? À Picasso, dont c'est le premier acte militant de toute sa, au sens politique du terme, toute sa carrière, hein, juste avant Guernica. Non, c'est, ça consiste surtout à populariser la culture. Mais les commandes, elles existent, et maintenant tous les historiens de la musique le disent, mais c'était une découverte à l'époque de ma thèse, c'est la première fois qu'il y a une politique systématique de commandes à des compositeurs de musique. Ça paraît étonnant. Jusque-là, c'est au coup par coup. Façon un petit peu Lully Louis XIV. Là, on prend une demi-douzaine de compositeurs, Darius Milhaud, Germaine Taillefer, Henri Barrault, etc., et on leur commande des œuvres avec une très grande liberté. Et ça, c'est une politique qui sera reprise et amplifiée à l'époque de Malraux, par exemple.
Puisque vous parlez de rideau, vous racontez, Pascal Horry, dans La Belle Illusion, le lever de rideau à l'Opéra Comique, un soir où étaient joués les contes d'Hoffmann et où le directeur était particulièrement contesté. Un délégué du personnel vient lire les revendications des intermittents du spectacle, dirait-on dans notre langage d'aujourd'hui, puis le rideau se lève sur les artistes qui, le poing levé, chantent la Marseillaise. On se croirait à l'Odéon ou dans un mauvais music-hall.
Paris, les chômeurs d'un petit faubourg se mobilisent sans compter pour faire revivre un music-hall abandonné avec des moyens de fortune, mais une volonté sans faille. Machinistes, contrôleurs, caissières, ouvreuses et même hommes sandwich, autant d'emplois à pourvoir.
Attendez, attendez. Vous pensez remonter un spectacle, gérer une affaire?
Bah oui.
La propriété privée est encore un droit sacré dans ce pays.
De toute façon, vous n'avez pas le choix. Les temps changent.
Monsieur le chef, ma voix s'élève pour vous annoncer sans façon ce que nous voulons, nous l'aurons.
Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
C'est pas assez.
Comment? Alors, voulez-vous être augmenté?
C'est pas assez.
Mais l'argent, on s'en fiche, nom d'une pipe. Chef, mais c'est une question de principe. Être menés à la baguette, chef, cela ne nous convient pas. Occupons toutes les banquettes, nous allons coucher sur le tas.
Un extrait du film Faubourg 36 de Christophe Baratier, on aura reconnu Reventura et son orchestre. Comment réagissait Pascal Horry, le public de l'Opéra Comique, qui n'était pas exactement le même que le public de l'Opéra, et le public de l'Opéra, si on regarde maintenant les choses du côté de la culture instituée? Ça encore, c'est un anachronisme comme terme.
Le public de l'Opéra Comique était plutôt sympathisant du Front Populaire quand même. Il voulait surtout que la machine marchât mieux que sous l'époque du directeur qui s'appelait Monsieur Gueuzy, complètement dépassé par les événements. Bon, du côté de l'Opéra, c'était très différent. Et de toute façon, le Front Populaire, de manière très significative, a donné carte blanche au patron de l'Opéra, qui n'a pas du tout lui été viré, qui a été renforcé, mais dans une perspective où se développerait un projet qui n'aboutira que très vaguement sous François Mitterrand, d'Opéra Populaire. Hein. On cherche déjà un emplacement, on pense à Gennevilliers, etc. Il y a des projets tout à fait...
Gennevilliers, il y a le marché couvert, c'est ça?
Oui, oui, il y a un certain nombre de projets tout à fait intéressants d'implantation d'un opéra populaire qui peut paraître aujourd'hui, en 2016, un oxymore, mais enfin, auquel on croit de façon périodique. Mais au-delà, il est significatif que vous preniez vos exemples dans le domaine de la musique, parce que jusqu'en 1936, la syndicalisation du monde artistique, dont on parle beaucoup actuellement avec les intermittents du spectacle, précisons que la préhistoire des intermittents du spectacle, c'est 36, d'ailleurs. Les premières formes de ce qui sera un statut des intermittents, c'est en 36. Eh bien, le seul secteur qui était un peu syndiqué, c'est celui des musiciens d'orchestre. On peut comprendre pourquoi. Tout le reste, pas du tout. Au lendemain des grèves, prenez le secteur capital du cinéma, là, le taux de syndicalisation devient extrêmement élevé. Il a baissé, mais il reste quand même assez fort. La Fédération du spectacle devient un acteur important du monde artistique grâce aux grèves de 36. C'est tout à fait impressionnant. Et d'ailleurs, il faut savoir que les associations culturelles très nombreuses dont je parlais tout à l'heure ont en particulier développé une politique très systématique avec des œuvres, avec des initiatives sur le terrain dans le domaine du cinéma, ce qui était très révolutionnaire. Ça a donné entre autres cet étonnant film qui s'appelle La Marseillaise. Il faut savoir que Jean Renoir, réalisateur de La Marseillaise entre autres, était aussi le secrétaire général de l'association proche du PC en fait, qui s'appelait Ciné-Liberté.
Alors là, vous parlez de ce qu'on appellera plus tard les industries culturelles. Qu'est-ce qui se passait du côté de la radio? Parce que certains ont tendance à dire la radio continuait à verser des rasades quotidiennes de pouces à la joie, de chantes sonnettes qui entretenaient la passivité.
Ah bah écoutez, déjà, première remarque, effectivement, il y a, disons, une réorientation politique des équipes de ce qu'on appelait le journal parlé. Pierre Brossolette, qu'on a mis au Panthéon l'année dernière, on a complètement oublié de dire que c'était un militant socialiste qui est arrivé à la radio à cette occasion-là. D'autre part, c'est à Jean Zay qu'on doit la radiodiffusion scolaire, qui est l'ancêtre de la télévision scolaire et qui, d'une certaine façon, essaye d'imaginer d'autres formes de pédagogie contre d'ailleurs un corps enseignant qui est vent debout face à cette initiative-là. Et puis, le théâtre, la popularisation du théâtre, ça passera par l'entrée dans les studios de radio de groupes de théâtre populaire, dont j'ai encore le souvenir comme auditeur de ce qui ne s'appelait pas Radio France, après la guerre, Art et Travail, juin 44, qui s'appelait Mai 36 en 36. Ce sont des groupes de comédiens qui se sont implantés dans la radio et qui ont prospéré pendant une génération. Ils venaient du Front Populaire.
Cependant, à l'époque, il y avait des élections radiophoniques. Ça, c'est une chose que nos auditeurs ont complètement oublié.
Ah oui, on a donné la parole aux usagers pendant 4 ans.
Oui, mais aux élections de 37, aux élections radiophoniques de 37, la gauche est battue par les associations de droite.
Tout à fait.
Comme s'il y avait le signe d'un mécontentement, d'une usure, déjà, de l'ambition culturelle du Front Populaire qui doit s'affronter quotidiennement, reprenons des termes qui ne sont pas convenables, à la culture humaniste individuelle. Ça veut dire quoi? C'est un des thèmes de votre belle illusion.
Bah, ça veut dire qu'en 1935-36, vous aviez une polémique récurrente dans la presse entre Alain Finkielkraut, entre Georges Duhamel et Jean-Richard Bloch, l'auteur de Naissance d'une cité et de quelques autres œuvres très emblématiques du Front Populaire, qui lui, Jean-Richard Bloch, défend le côté positif de ce qu'il appelle la TSF. Nous sommes à la radio, donc la radio, on pourrait déjà dire la télévision, parce que la télévision commence à diffuser en 35, qui dit qu'il faut pas diaboliser le cinéma, ce qu'a fait Georges Duhamel. Donc c'est une polémique très intéressante, on a l'impression que ce sont des jeux de rôle, et que plusieurs générations après, on en est à peu près au même point.
Octobre 1937, vous parlez de Naissance d'une cité, 40 morceaux dans des styles variés, aménagés par Jean Viener et sous la direction de Roger Desormières. C'est un spectacle sur un texte de Jean-Richard Bloch qui est donné au Vélodrome d'hiver.
Vous imaginez le scandale, Vélodrome d'hiver.
Oui, hein. Et qui est chargé de présenter la vie moderne.
Scène 4. Le hurlement d'une sirène déchire l'oreille. Les ouvriers courent se ranger, femmes et hommes, dos à dos, en deux files. Celles-ci représentent des chaînes. Devant la file des hommes, la métallurgie. Devant la file des femmes, la mode. À mesure que la scène se déroulera, les deux chaînes progresseront de front à la même cadence. Une auto de luxe monumentale sera montée sous les yeux du spectateur, tandis que parallèlement, les ouvrières dresseront et vêtiront une grande poupée dont les dimensions seront proportionnées à celles de la voiture. Quand le montage simultané de l'auto et du mannequin sont achevés, les deux équipes parallèles poussent un grand cri de délivrance. Sur un air extrêmement vif et gai, l'idole parée est soulevée par les ouvrières qui installent la femme dans l'auto, applaudissements et nouveaux cris.
1, 2, 3 et 4, ils étaient trois, faire du plat. Premier était un gros costaud, subit franchement, mec l'oublie, l'espoir en gonzesse, seul boulot. Toi, du linge, des robes à pluie, ton bifteck au lit, une villa de la perlouse.
Et la musique, c'est de Honegger pour ce passage, puisqu'il y en a 39 autres. La critique est venue au Vélodrome d'hiver, pardon.
Pas en masse et généralement plutôt hostile ou mitigé, sauf quelques critiques notoirement engagées à gauche, parce que il faut bien voir que c'était une œuvre complètement surprenante sur le plan esthétique, par rapport en particulier à une esthétique, je dirais, réaliste socialiste. C'est complètement symbolique, c'est l'histoire d'une sorte d'utopie, et c'est bien avant Ariane Mnouchkine ou quelques autres. Ce sont des scènes simultanées. C'est le recours à des clowns, il y a les Fratellini, à des gymnastes, à des mimes, aux haut-parleurs, aux balmusettes. Et évidemment, le spectateur n'est pas préparé à ça. D'une certaine façon, peut-être que ça avait une génération d'avance.
Toutes les forces réunies les plus diverses dans une gigantesque salade, c'est le mot qu'aimait utiliser Jean Viener. Merci à vous, Pascal Horry. Dans votre entretien dans le hors-série du Monde, vous montrez combien la politique culturelle du Front Populaire est riche de toutes les synthèses ultérieures qui ont pu se produire. Et puis, je rappelle votre belle illusion, la nouvelle édition au CNRS, Biblis, collection de poche préparation. Franck Olivard avec le concours et la collection de Martin Penel. La technique, c'était Dimitri Gronoff et la réalisation, c'était Jacques Sigal. Dans un instant, la tête au carré.
Oui, Jean, avec un instrument qui nous intéresse tous, la voix évidemment, nos cordes vocales blanches et nacrées au cœur de notre dossier dans quelques minutes. Et j'aurai pour invité Raymond Duré, qui est professeur de chant, Jean Abitbol, qui est chirurgien ORL, et Maxime Le Forestier, qui également nous fait l'amitié d'être avec nous.
Le Front Populaire était d'abord vocal avant d'être instrumental. Il est 14h, vous écoutez France Inter, demain une deuxième émission sur le Front Populaire, le temps de travail.